Merci à vous d'être là aussi, parce qu'aujourd'hui, ça fait toujours plaisir d'avoir encore des gens en face de soi. Donc bonjour, merci. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais vous emmener un petit peu sur les vastes territoires du faux, du fallacieux, du falsifié. Donc vous voyez déjà, comme dans le titre, on va naviguer entre différentes choses. Et je voulais, rien que par ce titre, vous montrer que, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut entendre en règle générale. Donc voilà, juste pour vous présenter rapidement le programme de recherche que je coordonne, c'est pandémique. Alors le titre a été choisi en 2018, n'y voyez aucun complot. C'est l'acronyme de propagande, héritage et mutation contemporaine. Et si vous tapez pandémique sur hypothèse.org, vous trouvez le carnet de recherche. Vous le trouvez aussi des informations sur le site de la MRSH ici, et notamment vous allez trouver sur la forge numérique de la MRSH toutes les séances de séminaires qui ont été enregistrées, qui ont été captées en audio. Vous pouvez réécouter en podcast, et je pense qu'il y en a qui pourraient vous intéresser, notamment sur celle de David Colomb sur la propagande de masse à l'ère contemporaine. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a une sur les fake news de Romain Badouard, qui est un grand spécialiste de la question. Il y en a une sur la captation de l'attention, dont je vais vous parler aussi, de l'économie de l'attention. Il y a des tas de choses qui vont faire écho à ce que Hervé Le Prunier a déjà évoqué lors de sa conférence inaugurale. Donc, ça va vous rappeler en principe des souvenirs. Et je vous laisse aller voir. Et je fais juste un petit peu de publicité pour cet artiste, Aaron Wood, voilà, qui m'a généreusement autorisé à utiliser son travail, que j'aime beaucoup parce qu'il joue avec les codes justement de la propagande 20e siècle en adaptant au contexte actuel et en rendant ainsi visible un certain nombre de phénomènes et en nous invitant à y réfléchir. Petit plan de séance, je commence donc comme je vous l'ai expliqué par les 50 nuances de faux. Par toute cette nébuleuse qu'on regroupe sous le terme souvent fallacieux de fake news, justement. Je fais un petit détour par l'histoire pour remettre en perspective, parce que ça n'a rien de nouveau. En revanche, il y a des caractéristiques nouvelles, mais il ne faut pas tomber dans le piège du ça vient d'apparaître, c'est un problème radicalement nouveau. Il y a des racines, il y a une histoire, il y a des choses qu'on retrouve sur une histoire très longue et c'est utile pour éclairer le propos. Je veux aussi attirer votre attention sur les effets fantasmés et les dangers véritables, parce que le discours ambiant sur les fake news est empreint d'une forme de panique morale et a tendance à amplifier des phénomènes et ne pas voir les vrais dangers, ou en tout cas amplifier certains phénomènes et détourner l'attention de ce qui pose réellement problème ou de ce sur quoi il faudrait réellement agir. Et puis je termine évidemment par quelques questionnements, histoire d'alimenter un petit peu la réflexion. Voilà. Donc, 50 nuances de faux, je l'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas une expression, ce n'est pas mon expression, donc je rends à César ce qui est à César, et vous avez des notes, et vous aurez évidemment tout le diaporama, donc ne vous embêtez pas à recopier ce qui est déjà écrit, concentrez-vous sur ce que je vous dis, et les éléments éventuellement supplémentaires que je peux apporter, vous trouverez tout ça sur l'espace de cours. Donc, comme dit William Oduro, employez le terme à tout va, fake news, obscurcit le jugement au lieu d'éclairer le propos. Pourquoi ? Parce que si vous avez tous sans doute fait quand même un petit peu d'anglais, et vous voyez la différence qu'il y a entre false et fake. False, ça se traduit en français par faux. Fake, c'est une imitation. C'est un faux, mais c'est un faux par imitation. Qu'est-ce que c'est qu'une fake news ? C'est un contenu qui imite volontairement un contenu journalistique, un contenu médiatique, il en imite les codes, la mise en page, le ton, etc., pour tromper. Donc une fake news, à l'origine, elle est intentionnelle, elle se maquille, elle se déguise en un contenu médiatique, et elle a un objectif, c'est produire un certain effet. Alors attention, cet effet, il peut être de nature différente, on y reviendra. Mais voilà. Vous avez une définition récente qui me semble intéressante. Je vous l'ai mise en anglais. Alors, en fait, en français, il ne faudrait pas dire fausse information, mais nouvelle forgée, fabriquée, imitée. Tout ça pour dire que lorsque on accuse aussi certains journaux ou certains médias de diffuser des fake news, c'est faux. Ils font du mauvais journalisme. Ah, il y en a du mauvais journalisme, hein. Du bon, du mauvais, il y a des bons profs, il y a des mauvais profs, voilà. Mais ils ne diffusent pas volontairement une information fausse. Il y a un processus qui, quelque part, a foiré et ils ont fait une erreur. Mais si vous dites fake news, c'est faux, techniquement, voilà. La commission d'enrichissement de la langue française a opté en octobre 2018 pour le terme d'infox. Donc en français, aujourd'hui, c'est un terme qu'on trouve aussi assez fréquemment. Mais selon le contexte, elle dit on peut aussi utiliser information fallacieuse, fausse nouvelle ou fausse information. Alors tout ça pour dire qu'on parle de fake news pour un peu tout et n'importe quoi. Là, je vous ai mis quelques notions connexes et vous voyez que, ah, oula, c'est quoi la différence entre tout ça ? Donc on va faire un tout petit peu le clair là-dedans. On parle aussi beaucoup de désinformation. La désinformation, c'est le fait de diffuser volontairement, en utilisant des médias, une information fausse afin de tromper un groupe. Donc évidemment, les fake news sont un élément qui participe à la désinformation, puisque c'est volontaire et on utilise les médias, on va lancer ça pour que ça rentre dans un flux médiatique, idéalement même justement que ce soit repris par des médias traditionnels qui se plantent parce qu'ils n'identifient pas le côté fallacieux de la chose. La propagande, c'est une action organisée, délibérée, pour influencer l'opinion et la conduite de la société. Donc on la ramène souvent à l'idée d'adhésion à un discours politique. Plus largement, on peut parler de manipulation de l'information. La manipulation de l'information, nombreux procédés. Et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a d'un côté le vrai, d'un autre le faux. Et on verra toutes les nuances, justement. On cherche simplement à produire un effet en manipulant l'information, en la tronquant, en la sortant de son contexte, en insistant sur certaines choses, plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien parler de manipulation de l'information. Pourquoi ? Parce que c'est plus large et que, paradoxalement, utiliser un terme plus large permet d'être plus précis. On ne rentre pas dans cette idée de « est-ce que c'est vraiment du fake, machin ?» Est-ce que c'est... Il y a une manipulation quelque part qui crée un effet, qui crée une distorsion dans la perception par le récepteur. Et il y a mille et une façons de créer cette distorsion. Il y a aussi tout simplement les rumeurs. Les rumeurs sont-elles des fake news ? Les rumeurs sont parfois à l'origine de fake news, ou les fake news sont à l'origine de rumeurs. C'est la poule et l'œuf. La rumeur, c'est simplement une nouvelle, c'est un bruit qui se répand dans le public, dont l'origine est inconnue ou incertaine, et la véracité douteuse. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément faux. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à vérifier l'information parce qu'on ne sait pas qui la diffuse, d'où ça vient. Mais ça se propage. C'est une rumeur. La rumeur n'est pas nécessairement fausse. Elle peut parfois s'avérer exacte. Le canular. Ah, bah vous connaissez tous maintenant les principaux sites, Nordpress, Le Gorafi, The Onion pour l'espace anglo-saxon. Ça, c'est en fait plus du pastiche humoristique d'ailleurs plutôt que du canular. Mais dans les deux cas, c'est le but est d'ordre comique. Le canular étant fait pour vraiment tromper, dans le cas du Gorafi, ce ne sont pas vraiment des canulars parce que vous allez sur le site et on vous dit qu'ouvertement, l'intention est parodique. Donc on ne cherche pas à vous tromper sur le fait que c'est vrai ou faux. À la source, on dit que c'est juste un pastiche, c'est parodique. Et puis, au bout de tout ça, vous avez la mésinformation, qui me ramène au premier, là. La mésinformation, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je fais, c'est ce que vous faites, c'est ce que tout le monde fait régulièrement, c'est-à-dire de façon involontaire, propager de façon non intentionnelle ces diverses informations, ces divers niveaux de faux. Quand on propage tout ça, eh bien, on contribue à ces désordres de l'information dont je vais vous parler. Mais on le fait de façon non intentionnelle, parfois intentionnelle, certes. À ce moment-là, c'est de la désinformation. Mais sinon, il faut mieux parler de mésinformation. Et là, c'est un phénomène qui se passe aujourd'hui à large échelle. Des mots, donc, différents types de problèmes. On peut utiliser un mot que j'aime bien, que propose Divina Fromex, la malinformation. Voilà. Aujourd'hui, tous ces désordres de l'information se traduisent par une forme de malinformation, une difficulté à trouver de l'information fiable, un sentiment de chaos, de perplexité, des diffusions massives de fausses informations ou d'informations douteuses. Et pourquoi mal ? Parce que ce préfixe, voilà, c'est à la fois de la malveillance humaine, avec ses intentionnalités mauvaises au départ. C'est de la malfaçon industrielle, avec les architectures des médias sociaux dont je vous parlerai. Et puis des maliciels technologiques, donc vraiment tout un écosystème en fait, qui est aujourd'hui problématique et qui affecte le contrat social. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste pour vous montrer les catégorisations qu'on peut faire, les types de mésinformations ou désinformations, donc je vous dis satire, parodie, et puis comment est-ce qu'on peut manipuler ? Bah, ça peut être juste un contenu qui est trompeur, ça peut être des liens qui sont erronés, on vous envoie pas vers les bonnes choses, on peut fabriquer complètement, on peut couper, on peut manipuler, on peut sortir du contexte, on peut faire de la fake news en imitant des sources d'informations. Bref, plusieurs façons de procéder. Dernier point pour le lexique, on va dire, ça va être post-truth. Ça vous dit quelque chose ? Alors, post-truth, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui. Ça vient évidemment donc, des États-Unis, en l'occurrence donc, après l'élection de Donald Trump en 2016, et le fait qu'on commence à parler de alternative facts, de faits alternatifs. Et post-truth, voilà, c'est un adjectif au départ qui qualifie des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. C'est l'idée que la vérité serait devenue secondaire dans la construction des opinions. J'ai envie de dire que c'est peut-être pas forcément très nouveau. Je vous en parlerai justement à propos de l'histoire. Mais c'est ce sentiment que, finalement, de plus en plus aujourd'hui, les gens se fient à leur opinion ou tiennent dur comme fer à leur opinion, quels que soient les faits qu'on puisse leur opposer. Ce que résument des collègues dans un ouvrage de sciences citoyennes en disant « Trump ne ment pas, il se fout de la vérité ». C'est-à-dire que la vérité ne l'intéresse pas. Ce n'est pas la vérité qui l'intéresse, ce sont ses convictions et la façon dont il va pouvoir convaincre des électeurs, gagner une base et la conserver. Donc c'est juste que c'est la façon de voir le monde qu'on considère comme première. Et la question n'est donc plus celle du vrai ou du faux, mais de l'efficacité de l'énoncé. Voilà, ça, je voudrais que vous gardiez ça un petit peu en tête dans vos pratiques informationnelles. C'est toujours de vous poser la question, quel effet ça me fait ? Parce que c'est ça qu'on recherche, c'est un effet. On cherche en général, on va voir, hein, mais les fausses informations, et surtout les fabriquées de type fake, cherchent à vous faire réagir. Donc si vous allumez une petite lumière avant de réagir, en vous disant « qu'est-ce qu'on attend de moi ?» Parce que cette information, quelque part, elle doit déclencher quelque chose chez moi. L'idée, donc, c'est celle de la fonction. À quoi sert-elle cette information ? Au-delà de son caractère de vrai ou de faux, qui n'est pas toujours facile à distinguer. En l'occurrence, hein, rassembler des partisans, souder des soutiens, une communauté, polariser, semer le trouble ou même la panique, ça c'est pour les infox à caractère politique. Mais il n'y a pas que ça. Il faut faire aussi attention parce que tout le monde utilise le terme, je vous l'ai dit, ce qui est un petit peu problématique. Et puis, voilà, on va l'attribuer par erreur ou en tout cas de façon abusive à des articles de médias professionnels qui comportent des erreurs, ça arrive, on se plante, voilà. C'est utilisé aussi pour disqualifier des opposants, notamment dans les régimes autoritaires, aujourd'hui en Égypte, en Turquie, ou par Trump, donc pour museler la presse d'opposition dans certains pays. Dans le cas de Trump, d'accuser les médias qui ne sont pas de son côté de propager des fake news. Donc je vous invite à rester vigilant à ce propos pour essayer d'appliquer les bons concepts. Alors je vous disais, on peut avoir plusieurs motivations. Créer du faux, ce n'est pas forcément dans un but de propagande politique. Aujourd'hui, on a souvent tendance à résumer, ou en tout cas le débat dans les médias se résume à cette question-là. La plupart, en fait, évidemment, donc il y a le côté influence politique, promotion d'un camp, d'une idée, déstabilisation aussi de pays ou de groupes, polarisation de l'opinion publique. Mais il y a surtout, au départ, un intérêt économique. On gagne beaucoup d'argent aujourd'hui avec le faux, la fake news. Pourquoi ça rapporte de l'argent ? C'est le système du putaclic ou clickbait en anglais, c'est-à-dire que ça fait cliquer. C'est taillé pour la viralité, je vais en parler, c'est créé pour être diffusé massivement, rapidement et faire réagir, faire cliquer. Vous cliquez, vous arrivez sur un site et ce site, il engrange à chaque clic un tout petit peu d'argent. Pas grand-chose à chaque clic, mais quand vous en avez des centaines de milliers, eh ben, tout de suite, ça rapporte de l'argent. C'est aujourd'hui, on estime que c'est 235 millions de dollars par an, l'industrie du fake. C'est pas rien. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Et ils se foutent royalement du contenu de leur fake news. L'exemple qui a vraiment mis ça sur le devant de la scène et qui a montré le problème, c'est toujours l'élection américaine 2016. Il y a des journalistes qui se sont rendus compte que la plupart des fake news pro-Trump, ou en tout cas anti-Clinton, provenaient de Macédoine, de serveurs en Macédoine. Alors, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Trump, les Républicains ont-ils payé des officines en Europe pour diffuser leurs fausses informations et faire campagne en sous-main ? Ils sont allés sur place, ils sont allés dans une petite ville qui s'appelle Vélez, qui est près de Skopje, et ils se sont rendus compte qu'ils ont rencontré les gens qui tenaient ces sites. Il y en avait plusieurs, il y avait des dizaines de sites. Et tout simplement, ils gagnaient très très bien leur vie. Beaucoup plus que... j'ai les chiffres quelque part, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais c'était des milliers d'euros par mois par rapport à la moyenne du salaire en Macédoine. Ils gagnaient très bien leur vie avec ça. Et ils n'en avaient strictement rien à faire de produire du faux anti-Hillary plutôt qu'anti-Trump. Ils n'étaient payés par aucune officine politique. Simplement, qu'est-ce qu'ils avaient remarqué ? C'est que ça marchait bien. Que, effectivement, concrètement, ça cliquait, ça marchait super bien. Alors, ils en ont fait à l'appel. Et ils ont très bien gagné leur vie avec ça. Voilà. Et c'est là que vous voyez que les frontières sont poreuses. Comment un intérêt à la base purement financier ? Concrètement, il peut avoir des implications réellement politiques. Mais ça n'a rien à voir avec de la propagande. Et puis, il y a un énorme problème aussi, c'est l'intérêt social, celui de la notoriété. Parce que quand on partage des choses sur un média social, c'est pour créer des réactions. Dès que vous partagez quelque chose, vous ne vous attendez pas à prêcher dans le désert. Vous attendez des réactions. Et le principe même d'attente du like, du partage, du commentaire provoque un attrait pour ce qui est choquant ou tout simplement extrêmement drôle. Attention, les deux phénomènes de viralité, c'est l'humour et les éléments choquants. Donc tout ça fait que ces trois familles interagissent, s'interpénètrent et que ce n'est pas si facile que ça de distinguer les choses. Alors là, je vous ai mis un petit tableau qui vous donne cause et motivation possible. Vous voyez comment, hein, si on coche des cases, si on fait ce truc-là, ben, c'est plus compliqué, ça se chevauche, c'est pas simple. Je vous donne un exemple pour vous montrer comment aussi l'humour peut dériver et devenir propagande politique. Fameux article du Gorafi, Emmanuel Macron, quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale pour toute la journée. Ça a très très bien marché. Alors j'ai les chiffres, je remettrai ça éventuellement, mais je vous ai mis l'article du Monde, hein, des décodeurs du Monde, qui retrace bien l'histoire de ce qui n'est pas un fake, hein, qui est un pastiche, qui est pris ensuite, qui est repris évidemment sur des médias sociaux. Mais à partir du moment où vous reprenez ça sur votre fil Twitter, Facebook, WhatsApp, tout ce que vous voulez, la source disparaît beaucoup ou devient beaucoup moins visible. Et les gens ne vont pas aller cliquer la plupart du temps. Hein, ils se limitent à lire le titre. Ils ne vont pas cliquer, ils vont pas remonter à la source. Donc ce qui au départ est parodique, ce qui est un pastiche, va être pris pour vrai. Et puis, il faut dire qu'au Gorafi, ils sont particulièrement doués et que donc, le pire, c'est que ça pourrait être vrai. Donc, ça marche sur le caractère de vraisemblance de la chose. Et une fois que c'est ensuite dilué dans un fil de médias sociaux qui, par définition, ne fait pas de hiérarchie dans la présentation, où tout est présenté sous le même mode, le même habillage, avec des encarts, etc., mais... ça va diffuser, ça va être décontextualisé, là encore, quelque part, et ça peut passer pour vrai. Et on va le retrouver sur des comptes militants. Là, vous avez un exemple, Vladimir Poutine Fan Club et Résistance et Unité PACA. Mais évidemment, ça va être aussi repris par des particuliers, d'autres sites, etc. Jusqu'à ensuite arriver avec un extrait vidéo que vous allez trouver ici, l'exemple sur un fil Twitter de Ridicule TV, et le banquier d'affaires Macron s'en alla à la rencontre du bon peuple, et donc on voit cet extrait où il s'essuie les mains avec une lingette. Et ensuite, quand on voit, en fait, c'est effectivement un vrai extrait vidéo. Donc très souvent, les vidéos sont... Il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas du tout trafiquées, mais qui sont fausses. Pourquoi ? Parce qu'elles sont coupées et associées à une légende qui n'a rien à voir avec le contexte de la vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'est parce qu'il venait de rencontrer des pêcheurs et qu'il avait pris une anguille à pleine main. Je pense que vous aussi, vous vous seriez nettoyé les mains après ce type d'activité. Sauf que ça a tellement fait écho à cet article « Je me sens sale pour toute la journée » qui a eu un phénomène de réappropriation, de collage, de montage, et ça a extrêmement bien fonctionné. Si bien que lorsqu'il est allé en visite chez des salariés à l'usine de Goodyear à Amiens, on l'a interpellé sur ce sujet-là. Parce que c'est passé dans l'idée, et beaucoup de gens avaient perçu ça, mais parce que ça va aussi avec l'image qu'on a d'Emmanuel Macron qui méprise le peuple, etc., et objectivement, lui-même a participé par de vraies déclarations à ce sentiment. Donc tout ça, plouf, s'amalgame. Et on a ce type de phénomène. Donc ça, c'était les fake news macédoniennes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on a des phénomènes transmédia, on a de la manipulation, trois motivations principales, je dis donc l'intérêt politique, financier, notoriété. Tout ça, c'est pas vraiment nouveau. Hein. Je vais vous montrer quelques exemples et on va voir en revanche ce qui est nouveau. Alors, quelques exemples dans l'Antiquité. Déjà, je vous parlais du post-truth, de fait que l'opinion compte plus que les faits. C'est Platon contre les sophistes, c'est épistémée, c'est la connaissance contre l'opinion. C'est un débat aussi vieux que la démocratie. Donc, cette idée de post-truth, à remettre en contexte, et je pense que cette question de connaissance contre opinion et vérité contre conviction... Elle n'a absolument rien de nouveau, c'est juste qu'elle revient aujourd'hui un petit peu plus sur le devant de la scène, mais on peut reprendre des arguments du 5e siècle avant Jésus-Christ, on s'y retrouvera, on s'y reconnaîtra, hein, la puissance des classiques. Si on veut revenir à la question véritablement du fake aussi et puis du pastiche, on peut remonter au sonnet calomnieux de l'Aretin au XVIe siècle. C'était à l'occasion, hein, vous allez voir, élection du pape. Contexte électoral. L'Aretin rédige des sonnets calomnieux sur les candidats, sur certains candidats, et les placarde sur la statue d'un personnage de théâtre qui s'appelait Pasquino. Et à Rome. Et donc, on appelle ça, c'est devenu un genre, les pasquinades. Hop. Médiatisation, enfin, vous voyez, contexte d'élection, contenu fallacieux ou calomnieux, diffusion. Alors, évidemment, après, il y a l'invention de l'imprimerie. Donc là, ça implique reproduction et diffusion beaucoup plus large. Donc, on passe à l'échelle. Bon. Au XVIIIe siècle, il y a le phénomène des pamphlets qu'on retrouve. Vous savez que notamment Marie-Antoinette a été victime de pamphlets particulièrement calomnieux qui lui attribuaient des relations incestueuses, des pratiques absolument abominables. Et tout ça se diffusait sous forme imprimée, sous le manteau, mais se diffusait très largement. Alors évidemment, moins rapidement qu'aujourd'hui par un retweet. Mais au bout de quelques mois, l'effet est le même, j'ai envie de dire. D'autant plus que le démenti, lui, n'arrive jamais. Après la Révolution française, il y a tout le mythe du complot maçonnique, auquel ensuite on ajoute les Juifs au début du XIXe siècle. Donc le complot judéo-maçonnique, c'est une construction progressive, hein, beaucoup de littérature là-dessus. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Great Moon Hoax du New York Sun en 1835. Vous allez voir, je vous mets voilà, le canular lunaire. Oula, canular lunaire du Sun de New York en 1835. Vous voyez là une illustration. C'est une série de 6 articles qui fait croire que on a observé de la vie sur la Lune. Avec les progrès de la science, les télescopes, etc. Et évidemment, au bout d'un moment, c'est démenti. Mais c'est un des, voilà, une des fake news. Et là, c'est véritablement une fake news parce que c'est publié dans un journal sous une forme médiatique autorisée, dans un but aussi. Pour essayer de faire comprendre aux gens. Alors l'idée, c'était, ben, on va vous montrer un petit peu les progrès de la science, etc. Mais bon, en même temps, on vous raconte des cracks. Mais ça fait vendre. un fake fabuleux, sont les protocoles des sages de Sion, 1903, qui continuent leur carrière encore aujourd'hui. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, là c'est vraiment la naissance de la propagande moderne 20e siècle qu'on a appelée le bourrage de crâne, où les journaux sont emplis effectivement de fausses informations en contexte de guerre volontairement, hein, pour parfois pour déstabiliser l'ennemi, mais surtout pour souder la population derrière l'armée et le gouvernement. Jusqu'à plus récemment, voilà, donc c'est en 2000, hein, c'est pas 99, excusez-moi, la fondation du site Hoaxbuster, que je vous recommande si vous ne le pratiquez pas de façon intense dès que vous avez une question sur la véracité de ce qui circule. C'est une source très précieuse, mais vous voyez que ça date de 2000, hein, on est quand même en 2020, ça fait 20 ans que ça existe, Hoaxbuster, ça fait 20 ans. Qu'il debunk, qu'il démystifie les fausses informations qui circulent sur Internet. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand même ? Voilà, tout ça, c'est pas nouveau, mais il y a un habillage et des circonstances techniques qui changent, et culturelles aussi. Donc là, je vais revenir à des choses que Hervé Le Crosnier a déjà évoquées, hein, dans sa conférence, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Première chose, c'est la massification. Ça, vous connaissez, je ne vais pas m'étendre dessus. Juste quelques chiffres, et je vous ai mis un lien pour avoir les chiffres actualisés en permanence. Aujourd'hui, Facebook, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Voilà, 2,7 milliards de personnes qui utilisent le même outil, la même plateforme pour communiquer. C'est absolument gigantesque. Twitter arrive bien derrière. Aucune comparaison. Twitter, c'est même la moitié de TikTok hein, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, faut... Twitter, c'est les politiques qui parlent aux journalistes, pour simplifier. C'est les politiques qui parlent aux journalistes, et comme ils parlent aux journalistes, les journalistes s'en saisissent et ensuite donnent de la visibilité à ça. Mais en termes d'usage, ce n'est pas le média social le plus utilisé, loin de là. Donc c'est un paysage aussi qui est en évolution permanente. TikTok, c'est extrêmement récent, ça marche très très bien. Derrière finalement Facebook, bah, c'est Instagram, WhatsApp, mais aussi Messenger. Donc bon, beaucoup de choses. Et un paysage qui est en mouvement perpétuel. Ce qui caractérise en revanche toutes ces plateformes, c'est la vitesse de propagation. Voilà. Les médias sociaux, ce sont des accélérateurs de contenu. Vous avez très bien compris, vous connaissez le fonctionnement. Pourquoi ce sont des accélérateurs de contenu ? Par toutes les fonctionnalités qu'ils vous offrent, notamment les fonctionnalités de partage. Mais, deuxième élément extrêmement important dans ce caractère de propagation, d'accélération, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le trafic Internet, plus de la moitié du trafic Internet mondial, ce sont des robots. Plus de la moitié du trafic Internet aujourd'hui est assuré par des entités non humaines. Et sur les médias sociaux, la présence des bots est énorme. Énorme. Et donc, à partir du moment où c'est automatisé, vous imaginez aussi la vitesse, la capacité de propagation à partir du moment où vous avez une automatisation. Ça démultiplie les choses. Autre élément, donc vitesse de propagation, et puis ça on en parle souvent, disparition de ce qu'on appelait les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui auparavant protégeaient l'entrée, les gardiens de l'entrée de l'espace public. Les éditorialistes, les rédacteurs des journaux, les journalistes, les personnalités publiques, ceux qui avaient accès à l'espace de la parole publique. Aujourd'hui, tout le monde y a accès par le web 2.0, par le web participatif et par ces plateformes sociales. Donc même si vous ne savez pas écrire, vous pouvez être capable de cliquer, de partager des images ou d'écrire dans un langage approximatif, peu importe. C'est une vraie démocratisation de la prise de parole. La conséquence, il n'y a plus de contrôle a priori. Alors, on en parle aujourd'hui du contrôle. Dieu, qu'on en parle. Contrôle a priori, ça n'existe plus. On ne peut que contrôler a posteriori ce qu'on appelle le phénomène de modération, ce que font au quotidien les modérateurs des blogs, des forums, les modérateurs des médias sociaux qui travaillent dans l'ombre. Je vous conseille le documentaire sur les nettoyeurs du web qui est absolument remarquable et qui pose des questions fondamentales sans manichéisme, mais vraiment qui pose les questions. Donc ça, c'est ce premier aspect. Le deuxième, c'est le perfectionnement des techniques et la facilité de mise en œuvre. On vous parle depuis quelques années des deep fake news ou infox approfondi, où effectivement on manipule maintenant la vidéo et l'audio si bien qu'il est absolument impossible pour un humain de distinguer le vrai du faux, même si son œil est extrêmement exercé. Et on est obligé d'inventer des machines à détecter le travail d'autres machines. Donc c'est un petit peu comme le dopage, hein, c'est la course toujours, seules des machines peuvent détecter le travail d'autres machines et le faux. Et il y a ces générateurs automatiques d'infox ou de même qui facilitent, qui font que n'importe qui, même le plus handicapé de la souris, peut créer du faux qui ressemble à s'y méprendre, hein, justement. Alors, je ne sais pas si ça va s'afficher. On va aller voir le Break Your Own News, vous allez voir. Mais il est extrêmement facile de créer des infox. Des faux, le premier, c'est un faux décret de Donald Trump. Donc, vous avez une image et puis vous tapez le texte et vous créez un faux décret de Donald Trump signé. Et ici, avec Break Your Own News, vous créez facilement, en tapant ce que vous voulez, en mettant l'image que vous voulez, vous créez en quelque sorte une capture d'écran de chaîne d'information continue. Donc, je vous... C'est extrêmement simple, et puis c'est de plus en plus, facile et démocratique, ou démocratisé en tout cas, c'est un défaut d'être démocratique. Et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, les effets spéciaux, les prestidigitateurs. Qu'est-ce qu'ils font, les magiciens? Ils vous trompent simplement parce qu'ils vous font croire, ils amènent votre regard quelque part pendant qu'il se passe autre chose et vous ne le voyez pas. Voilà. Les premiers films de cinéma, dès le début, il y a eu des effets spéciaux. On peut faire du faux sans avoir besoin de la technique. Bon, aujourd'hui, on a des techniques très, très évoluées qui nous permettent de faire des choses extrêmement convaincantes. Ce qui est intéressant dans ce qu'on appelle les deep fake news, j'ai lu récemment un article et je trouve ça assez génial pour vous montrer que voilà, tout n'est pas noir et blanc. Eh bien, en Inde, ils ont trouvé un usage, j'ai envie de dire, intelligent de ces manipulations vidéo. C'est utilisé par un candidat du BJP pour diffuser son discours dans différentes langues. Vous savez qu'en Inde, il y a un nombre incroyable de langues qui sont parlées et que tous les Indiens ne se comprennent pas. Comment vous faites pour faire campagne dans un pays où il y a beaucoup de langues différentes? Eh bien, l'utilisation qui a été faite ici, me semble, finalement, là, elle est légale, elle est volontaire, mais elle est fausse. Le candidat ne parle pas le tamoul. Ben non. Pourtant, il a fait une super vidéo et son discours et du coup peut être reçu par la population qui est visée. Alors, il y a aussi toujours les fameux aspects économiques. Hein, voilà. Le problème, et donc ça aussi, on vous en a déjà parlé, c'est le modèle économique quand même à la base, gratuité contre données et publicité. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Vous connaissez l'adage, bien. Tout ça fonctionne sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire que tout est fait dans les plateformes aujourd'hui, et notamment les médias sociaux, pour capter votre attention le plus longtemps possible, donc vous faire rester, vous rendre accro. C'est un écosystème permanent de la captation de l'attention et de l'addiction. Donc, il est absolument illusoire, et je trouve extrêmement hypocrite, de renvoyer la responsabilité sur l'utilisateur. Si vous êtes accro à votre téléphone portable et que vous l'avez là derrière votre écran et que je ne peux pas le voir, ou que vous l'avez là dans votre poche et que vous dites « il est là, c'est mon petit doudou numérique, hein, je ne vais pas pouvoir m'en passer », et puis je le mets en mode vibreur pour être discret, mais quand même parce que FOMO, fear of missing out, au cas où il se passerait un truc important, où j'aurais un message auquel il faudrait que je réponde là maintenant tout de suite, parce que sinon la Terre s'arrêtera de tourner. C'est pas de votre faute. OK ? On est tous comme ça, on est juste manipulés par des gens qui savent exactement sur quel bouton appuyer dans notre psyché, dans notre comportement, pour qu'on réagisse comme ça. Ça fait des dizaines d'années que c'est étudié, c'est la psychologie comportementale, et ben on sait très bien comment ça marche. C'est exactement la même chose que pour les casinos, pour les jeux d'argent. On sait très bien comment faire en sorte que les gens reviennent, restent et continuent à mettre l'argent dans la machine, même quand ils ont gagné, qu'ils devraient repartir là avec leur gain là. Comment est-ce qu'on va faire pour que, et finalement, ils nous laissent tout l'argent? Ça marche très bien. C'est conçu pour vous rendre accro. Toutes les notifications, tous les trucs push-up, tous les petits j'aime, les likes, hein, le concepteur du like se repent d'avoir inventé cette chose qu'il appelle, j'ai oublié son expression, mais tout ça, c'est fait pour vous apporter des satisfactions, et notamment des satisfactions aléatoires hein, aussi. Donc, on va y revenir, parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il y a eu un truc qui va me donner une petite satisfaction. Ouais. C'est permanent, c'est conçu pour, et tous fonctionnent sur ce modèle-là. Pourquoi? Parce que plus vous restez, plus vous êtes susceptible d'agir, d'interagir, d'être ce que les plateformes appellent des utilisateurs engagés. Réfléchissons aussi sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? L'engagement pour les plateformes, ça veut dire cliquer. Plus vous cliquez, plus vous êtes actif. Alors, vous partagez, vous likez, vous commentez, n'importe quoi. Vous faites un clic, vous cliquez sur une publicité. Toutes vos actions laissent des traces. Toutes. Et ces actions, ces traces, sont transformées en données qui sont agrégées pour créer des profils et pour ensuite vendre ces données aux annonceurs. Donc, vous n'êtes pas les clients de votre média social, vous êtes son utilisateur. Les clients, ce sont les annonceurs qui les payent, qui leur font gagner de l'argent, beaucoup d'argent. C'est comme ça que ça marche. Et je reviens à mes fake news, vous allez me dire, parce que qu'est-ce qu'on s'en fout de ça ? Oui, d'accord, ok, bon, on est manipulé, c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Eh bien, parce que les fake news, ça marche, ça se diffuse très vite, et ça fait réagir. En bien, en mal, tout ce que vous voulez. Ça fait réagir, donc, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est promu par les algorithmes. Puisque ça fait réagir, ça va vous faire rester. Si vous réagissez, ça veut dire que vous avez une action. Plus vous avez des actions, hop, 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 hop. Donc tout ça, ça se potentialise. Et donc ces fameux algorithmes qui décident de ce que vous voyez sur votre fil d'actualité sont faits pour qu'on vous montre du contenu qui est susceptible de vous plaire ou de vous faire réagir, de vous engager. Et donc, du coup, le faux se diffuse particulièrement vite et les filtres et les algorithmes ne sont pas faits, ne privilégient pas l'information vérifiée, l'information aussi plurielle, c'est-à-dire ce sont les fameuses bulles de filtres. On sélectionne des informations qui ont tendance à aller dans votre sens. Et de toute façon, nous-mêmes, bien avant les médias sociaux, le biais de confirmation et l'exposition, ce qu'on appelle l'exposition sélective, c'est pas nouveau non plus. Ça fait quand même bien longtemps que les gens achètent des journaux en fonction de ce qu'ils pensent, et pas en fonction de ce qu'ils ont envie de lire. Donc, se confronter au pluralisme des opinions, c'est pas naturel, parce que d'un point de vue cognitif, ça demande des efforts. C'est pas confortable, hein. C'est même assez gênant d'entendre des choses qui vont pas dans notre sens et d'être obligé de réfléchir, de trouver des arguments. C'est saoulant. Non mais il faut être clair, hein. C'est fatigant. Réfléchir, c'est fatigant. C'est pour ça qu'on peut pas le faire tout le temps. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelle le système 1, système 2, le truc on va vite, les automatismes, etc. Puis système 2, c'est un peu plus lent, il faut réfléchir. On ne peut pas passer toute sa journée à réfléchir, c'est épuisant. Ça bouffe beaucoup d'énergie, le cerveau. C'est pour ça que vous êtes crevé à la fin de la journée quand vous avez beaucoup travaillé. En théorie. C'est vrai. Donc, tout ça pour dire que les filtres des algos, ils sont là pour vous proposer des choses qui vous plaisent, ou alors dont il a remarqué que, sur lesquelles il a remarqué que vous allez réagir, les amis avec lesquels vous interagissez le plus, etc. Tout ça pour donc faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible. Mais il ne va pas privilégier, il n'est pas conçu. Or, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, techniquement c'est parfaitement possible, d'accord, d'avoir un algorithme qui intègre, par exemple, ce qu'on appelle la sérendipité. Qui sait ce que c'est que la sérendipité ? C'est un joli terme. Eh bien, c'est le fait de découvrir les choses par hasard. Internet, c'est un fabuleux espace pour la sérendipité parce que vous naviguez par lien hypertexte. Et donc, vous découvrez en permanence, en principe, des choses. Ça vous ouvre des horizons, vous arrivez sur des trucs auxquels vous attendiez pas. La sérendipité, c'est ça. Ça vient du conte d'un conte, le prince de Sérendip. Mais bon, tout ça, c'est pour vous dire qu'on peut rentrer des critères dans un algorithme différent de ceux qui existent aujourd'hui. On peut rentrer un critère de aller un truc au hasard. On peut rentrer un critère de une opinion divergente pour trois opinions convergentes. On peut rentrer ce genre de choses. C'est pas du tout ce qui se fait aujourd'hui. Alors, il y a quelques tentatives aujourd'hui qui se font, pas dans ce sens-là, mais dans le sens de privilégier des informations vérifiées. Ce qui se fait depuis 2017, notamment sur Facebook, c'est le fait d'attacher des articles de fact-checking à des publications qui ont été identifiées comme fausses ou douteuses. Et donc, dès que vous tombez dessus, hop, il y a un petit complément, on vous dit « attention, L'AFP factuel a quelque chose à dire là-dessus, Check News de Libération a quelque chose à dire là-dessus, ou les opérateurs de France 24. Et vous avez un complément d'information. Et si vous voulez partager, vous avez un pop-up aussi qui s'affiche en vous disant « Attention !» En gros, vous partagez en toute connaissance de cause. Voilà. C'est un système qui se développe depuis 2-3 ans. Même s'il y a des limites à tout ça, on en discutera si on a le temps. Qu'est-ce qui fait aussi que le faux se propage beaucoup? Il y a aussi ce phénomène d'information permanente, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les chaînes d'information en continu. Alors, vous êtes un petit peu jeune, mais vous avez peut-être entendu vos parents dire « plus il y a de chaînes, moins il y a d'informations ». Paradoxalement, en fait, il y a de plus en plus de médias. Il y a de plus en plus de médias, il y a de plus en plus de chaînes de télévision, etc. Et il y a de moins en moins de contenu original. Comment ça s'explique, ça? Ça a l'air en soi d'être un paradoxe. Normalement, plus il y a différentes chaînes, plus il y a différents médias, plus vous devriez avoir accès à plus d'informations et à des informations plus plurielles, plus diverses. À de plus en plus de médias, ouais. Alors, il y a la question de l'intérêt public ou de l'intérêt du public. À quoi s'intéresse le public et qu'est-ce qui relève de l'intérêt public? Je vous laisserai méditer là-dessus. Donc oui, il y a des effets de sensationnalisme, toujours pour cette idée de captation de l'attention. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte hyper concurrentiel. Il y a de plus en plus de chaînes, il y a de plus en plus de médias, il y a de plus en plus de médias sur Internet notamment. Comment faire pour que les gens ils viennent nous lire nous écouter nous et pas les autres? Il y a aujourd'hui, dans l'espace médiatique, un contexte dit ce qu'on appelle hyper-concurrence, qui est quelque part un peu problématique. Le deuxième élément, c'est qu'il y a de plus en plus de médias, il y a de moins en moins de journalistes. Ce qui veut dire que dans une rédaction, il y a de moins en moins de journalistes pour produire le même contenu. Et pour produire en plus en continu, parce qu'il faut alimenter le site 24 heures sur 24. Et puis s'il n'y a pas du nouveau sur la page toutes les 10 minutes, ça ne va pas. Donc il y a une course à l'information permanente qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des choses, des phénomènes de boucle, parce qu'on va reprendre ce que disent les collègues. C'est ça dont on parle, donc hop, c'est le serpent qui se mord la queue. Et de toute façon, on n'a pas le temps d'aller découvrir. Ça prend un temps fou de faire un reportage d'investigation ou même juste un reportage sur autre chose que ce dont tout le monde parle et quand on peut reprendre des tweets. Ah bah, c'est pratique de reprendre des tweets et des dépêches de l'AFP, ça s'appelle bâtonner. C'est ce que font aujourd'hui les journalistes parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc ça, c'est le contexte aussi économique qui crée cet appauvrissement du contenu. Dernière chose, au rang de la nouveauté, et ensuite on fera une petite pause, que vous aurez bien méritée, ce sont les aspects culturels aussi. Il y a effectivement des changements dans la société, dans notre rapport à l'expertise, dans notre rapport au savoir, à l'information, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, le principe libéral, démocratique, horizontal d'Internet, l'accès à tous, la démocratisation dont je vous ai parlé, l'accès à tous à la production, à la diffusion d'informations et aussi à la connaissance, fait qu'il y a une tendance forte de remise en cause de l'autorité et de l'expertise. Le poids de la parole n'est plus lié au statut, c'est-à-dire que l'exemple type, c'est Wikipédia. Et puis le phénomène des influenceurs. Alors, je vais juste vous parler de Wikipédia quelques minutes, parce que moi, j'aime beaucoup Wikipédia. J'en sers très souvent. J'ai fait participer mes étudiants à des articles de Wikipédia. Il n'y a rien de mieux que de mettre la main à la pâte pour comprendre comment ça marche. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà publié sur Wikipédia. Non, personne ? C'est super facile. Donc, je vous incite vraiment à aller regarder. Il y a plein de tutos, mais c'est vraiment très, très simple aujourd'hui de publier sur Wikipédia, d'ajouter des éléments ou de contester. Et vous voyez que sur Wikipédia, sur tous les articles, il y a un petit onglet discussion. Alors, parfois, il n'y en a quasiment pas de discussion. Puis alors, il y a des articles sur lesquels il y en a des corsets, des discussions. Et bien sûr, Wikipédia, vous n'avez pas le droit de dire, de décrire quelque chose et de dire, ben, c'est vrai parce que c'est bon, vous êtes gentil, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, j'ai un doctorat en études germaniques, le sujet de ma thèse, c'était Lessing, cet auteur, je l'ai traduit, je le connais, point barre. Ça, c'est l'argument d'autorité, c'est l'argument du statut. Ça ne marche pas comme ça. Sur Wikipédia, il faut que vous citiez vos sources. Et il faut que ces sources, ensuite, il peut y avoir une discussion sur la validité de la source, sur le caractère crédible, fiable de la source. Mais ce n'est pas votre statut qui définit la validité de l'information. Il faut qu'il y ait une source, et donc qui valide votre information. Ça marche très très bien, même s'il y a un certain nombre de dérives sur Wikipédia, notamment investies par des agences de publicité qui font de la publicité déguisée. Donc c'est pas simple, mais c'est une communauté qui marche quand même plutôt bien. Et donc je vous encourage à vous y intéresser en tout cas. Et puis la question des influenceurs aujourd'hui, ou les gens qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes et qui donc ont techniquement une influence par la popularité et non pas par leur statut d'expert ou leur autorité. La question de l'absence de hiérarchisation des informations, ça je vous en ai parlé, sur un fil d'actualité, tout est présenté de la même façon, donc c'est source de confusion, c'est pas toujours facile de distinguer les sources et de leur attribuer de comprendre où elles se situent. Qui a dit ça, pourquoi, dans quel contexte. Il y a une forme de décontextualisation et de mise à plat de toutes les productions qui peut être problématique. Il y a évidemment les formes de narcissisme exacerbé. On connaît aussi la panique morale sur le selfie. Ça s'est un petit peu calmé depuis quelques années. Mais c'est vrai que, sans parler de narcissisme, l'exposition de soi, la mise en scène de soi sur les médias sociaux, c'est quelque chose de nouveau. Et ça crée de nouvelles compétences aussi, des nouvelles possibilités de vivre ses identités, de vivre sa personnalité. Mais ça a aussi des effets délétères. Je ne m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui. Et surtout, le principal aspect, c'est la crise de confiance généralisée dans les institutions. À la base, quand vous sortez le matin, ce qui vous permet de sortir et de venir jusqu'à la fac, c'est la confiance. Ben oui, vous avez confiance en le fait que votre bus ou votre train passera. Bon. Mauvais exemple, excusez-moi. Vous avez confiance dans le fait que les gens vont, dans l'ensemble, respecter le code de la route et pas vous écraser quand vous traversez au vert. Voilà. Vous avez confiance dans le fait que si vous vous présentez ici aujourd'hui à 14h, eh bien moi, je serai là comme c'était prévu. Etc., etc. Et j'ose espérer que vous avez un minimum confiance dans le fait que tout ce que je vous raconte là, c'est sourcé. Parce que j'ai pas mis mes sources tout partout. Voilà, j'en ai cité quelques-unes, mais je vous avais confiance dans le fait que, a priori, je ne suis pas en train de vous mentir de façon éhontée. Le problème, c'est que si vous n'avez pas confiance, parce que vous dites, la prof, elle a des biais, elle est anticapitaliste, elle est ceci, cela, et donc elle va me raconter n'importe quoi. C'est mal barré. Si vous n'avez pas confiance dans votre médecin, vous n'allez pas prendre votre traitement, etc., etc. Alors aujourd'hui, on a ces grands problèmes, effectivement, de confiance dans la science, dans les experts. Sauf que vous ne pouvez pas tout vérifier par vous-même. La connaissance, elle s'acquiert par délégation. Vous ne pouvez pas aller tout vérifier par vous-même. Vous êtes obligé à un moment de faire confiance dans la personne qui a écrit le bouquin, dans la personne qui est en train de vous parler, dans le scientifique qui a fait ses protocoles de tests de vaccins. Si vous n'avez confiance en personne, vous ne pourrez pas avancer bien loin. Or, le problème principal, c'est celui-là, c'est celui de la confiance. Voilà. Et aujourd'hui, la diffusion d'informations alternatives, donc ce qui va se rapprocher le plus des fake news, on remarque que ce qui est le dénominateur commun des gens qui diffusent ces informations, très souvent, eh ben, c'est leur volonté. Alors, ils ne le font pas justement de façon maligne, en disant « je vais diffuser de la fausse information, aujourd'hui, je vais désinformer. Allez, hop, puis alors, je vais emballer sur un max et puis je vais aller envoyer. » Non, ils disent « aujourd'hui, je vais informer mes concitoyens. Je vais leur dire ce que les médias ne disent pas. » C'est un geste citoyen. Et c'est là qu'on a un vrai problème. Parce que beaucoup de gens qui diffusent de la fausse information le font véritablement avec bonne conscience et avec d'excellentes raisons, parce qu'ils sont persuadés qu'ils font quelque chose pour la société. Donc c'est là qu'il faut travailler. C'est sur cette question de la confiance et de où est-ce, dans quelle source d'information est-ce qu'on peut avoir confiance. Et je vous accorde vos 5 minutes de pause.